Voilà, je crois que les grandes sortent et doivent sortir. Il n'y a pas beaucoup là, mais. Bonjour à tout le monde. Et voilà, j'ai à cœur de parler ce matin sur deux passages comme référence qui concernent Babylone. Je ne vais pas nécessairement parler sur Babylone, je ne vais pas faire un exposé sur Babylone, j'en serais certainement incapable. Mais je vais parler sur un aspect spirituel de Babylone, n'est-ce pas? Et donc ensemble, alors j'aimerais qu'on regarde d'abord Jérémie chapitre 51 au verset 34. Jérémie 51 au verset 34. Donc là, il est question de Babylone. Alors c'est une prophétie parce que vous voyez le départ en Babylone pour Juda qui se passe dans le chapitre 52 de Jérémie. Donc, vous voyez, c'est prophétique, mais dans la prophétie, on n'arrive pas. Je sais que Michael l'avait dit le mardi soir aussi avec Ésaïe, quelquefois on ne sait pas, c'est tellement extraordinairement clair qu'on ne sait pas si c'est en train d'être vécu ou si c'est pour l'avenir, etc., ou si c'est déjà passé. Et là, on a l'impression que c'est vécu, alors que ça semble être prophétique. Et ça s'est réellement passé, évidemment, très peu de temps après. Donc, Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel qu'un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Très simple, n'est-ce pas? Une parole très profonde de quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui se sent dévoré, déchiré, détruit, englouti. Et vous savez que Babylone, ça représente le monde. Ça ne représente pas le monde autour de nous, pas les gens qui viennent pas à l'église. C'est pas ça le monde. Le monde, c'est un esprit, c'est une puissance. C'est la puissance du péché. C'est ainsi que Babylone est décrite très clairement dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Vous lisez ces passages, c'est vous, et vous verrez comment est décrite Babylone. C'est la puissance qui est contre Dieu. C'est la puissance qui est à l'opposé de Dieu. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, si nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu, eh bien, nous sommes sur le territoire de Babylone. Et il ne peut pas en être autrement. Parce que si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Même si peut-être dans notre tête, on n'a pas d'opposition contre Dieu. Est-ce que l'on peut dire ce matin, je sais que je suis en communion avec Dieu. Je sais que je suis en règle avec Dieu. Je sais que ma vie et ma relation avec Dieu est au clair. Et que j'ai rien à faire parce que j'ai été avec Babylone, parce que j'en étais délivré. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce passage très court qu'on vient de lire. C'est que moi, quand j'ai lu ce passage et relu ce passage, eh bien, j'ai pensé qu'il s'agissait nécessairement de paroles de captifs. Et qu'il s'agissait d'une femme qui disait ça. Effectivement, c'est un peu plus loin, verset 35, c'est dit l'habitante de Sion. Donc, Sion, c'est Jérusalem, c'est-à-dire une habitante de Jérusalem qui a été déportée, n'est-ce pas, en captivité en Babylone. Je vais raconter ça tout à l'heure. Eh bien, je pensais que c'était les propos d'une habitante de Jérusalem qui avait été déportée, ou que c'était les propos de la porte-parole des déportés en Babylone. Mais il est dit ici que c'est dit de l'habitante de Babylone, et un peu plus loin, juste deux lignes plus loin, dit Jérusalem. C'est-à-dire que c'est Jérusalem qui a été effectivement détruite, qui a été ravagée par le roi Nebuchadnezzar lors de la déportation. c'est effectivement le temple de Dieu qui a été brûlé, qui a été détruit à Jérusalem. C'est effectivement le temple de Dieu qui a été dépossédé de tous ses biens, de tous ses trésors, de son or, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui est passé dans le temple de Dieu, c'est ce qui se passait dans la vie de celles et ceux qui ont été en déportation et qui ont pris conscience de leur misère. Ils sentaient les mêmes sentiments que ce qui était arrivé au temple de Dieu leur était arrivé à eux. Il y avait une identité stricte. Et là, je vois quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas, qu'on voit dans le Nouveau Testament. Lorsque l'apôtre Paul dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, et ce qui se passe au temple de Dieu, c'est ce qui se passe à vous. Il y a une identité parfaite qui se produit. Mais voilà que c'était la destruction. Pourquoi ? Eh bien, vous savez que c'est parce que le peuple a péché. Le peuple s'est détourné. Dieu a été patient pendant longtemps. Le peuple de Juda s'est détourné à adorer des idoles, a fait des compromis. Si vous lisez le prophète Osée, c'était bien avant la déportation, c'était du temps d'Ézéchias. Et Ézéchias a vécu longtemps, et il a eu un fils qui a vécu très très longtemps, 55 ans si je ne me trompe pas, sur Jérusalem. Et la déportation est venue après le règne de son fils. Donc, le peuple était déjà averti du temps d'Ézéchias, et même avant, que s'il se détournait, il y aurait un jugement. C'est très clair d'ailleurs du temps de Moïse dans le Deutéronome qu'il y aurait des bénédictions s'il marche avec Dieu, s'il suit Dieu, mais qu'il y aurait des malédictions s'il se détourne. Et le Dieu a patienté pendant des années et puis ensuite il a livré à Babylone. Il a permis que le roi de Babylone, vous voyez la description là, le roi de Babylone vienne brûler, détruire Jérusalem, prendre en captivité une grande partie du peuple. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas maltraité, semble-t-il, le peuple. Il a maltraité certains du peuple, certes. Mais il n'a pas maltraité dans l'ensemble. Les captifs ne vivaient pas trop mal en Babylone. Et peut-être ce matin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est détourné de la maison de Dieu, du temple de Dieu, de la présence de Dieu. Peut-être ce matin, vous sentez en déportation vous-même. Vous sentez que vous êtes plutôt dans le monde, même si vous avez donné votre vie au Seigneur il y a longtemps, même si vous avez fait des pas avec le Seigneur, vous sentez que vous n'êtes pas sur le territoire que Dieu avait en réserve pour vous. Vous n'êtes pas en communion avec Dieu lui-même, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, mais vous sentez que vous avez été englouti, que vous avez été dévoré. Ou si vous ne le sentez pas encore, un jour ou l'autre, vous allez sentir cela. Comme j'ai dit souvent et comme je répète souvent, les hommes et les femmes qui ont pris conscience que dans le monde, ils sont détruits, dévorés, engloutis, eh bien ce sont des gens à qui Dieu peut parler. Et ce matin, Dieu peut vous parler si vous sentez votre misère. Si vous sentez que votre éloignement de Dieu vous a conduit simplement à être dévoré, être détruit. Et si de votre cœur, il y a un cri qui monte, comme c'est le cas ici de l'habitante de Jérusalem ou de Jérusalem, un cri qui monte pour la délivrance, parce que c'est ça l'objectif du chapitre 51, c'est de demander à Dieu la délivrance. Eh bien, s'il y a ce cri qui vient du cœur, c'est là où Dieu répond. Dieu répond de manière merveilleuse à ceux qui crient vers lui. Il y a tellement de vide dans nos demandes à Dieu. Il y a tellement de manque de cris, n'est-ce pas ? Mais ceux qui crient à l'Éternel parce qu'ils ont pris conscience qu'ils sont détruits, et qui confessent de leur bouche qu'ils sont détruits, qu'ils sont ravagés, qu'ils sont engloutis, et qu'ils ont besoin du Sauveur. C'est ça que Dieu entend, c'est ce cri-là. Tant que l'on se trouve juste, tant que l'on se trouve pas trop mal en Babylone finalement, pouvait avoir certains postes qui étaient même meilleurs que peut-être ceux que les postes qu'il pouvait avoir à Jérusalem. Et on pouvait se contenter, on pouvait dire c'est pas si mal Babylone, ils sont pas si méchants, c'est pas comme l'Égypte. En Égypte, ils étaient méchants. En Babylone, ça va pas trop mal. Et tant qu'on n'est pas conscient du fait que Babylone, c'est un esprit qui nous détruit, eh bien, on ne crie pas à Dieu et on ne peut pas avoir la réponse de Dieu, l'intervention de Dieu. Vous savez que l'esprit de Babylone agit encore puissamment aujourd'hui. Babylone, ses fondements, c'est Babel, la tour de Babel. C'est là où la confusion de langage s'est faite. C'est là où les hommes ont dit, vous lirez ça dans Genèse chapitre 11, nous ne voulons pas être dispersés sur la surface de la terre. Alors unissons-nous et faisons une tour et faisons-nous un nom. On oublie ce détail, on retient la tour de Babel. Mais les hommes voulaient se faire un nom. Je veux être connu, je veux être reconnu. Ça c'est l'esprit de Babel, c'est l'esprit de Babylone. Et le résultat a été la dispersion sur la terre. Ils voulaient éviter la dispersion. Ça a été, Dieu est venu, est intervenu, il a confondu leur langage. Et je vois qu'il y a tellement de gens qui souffrent de ça, qui se sentent détruits, qui se sentent engloutis, qui se sentent dévorés parce qu'on ne comprend pas leur langage. Je ne parle pas de la langue que vous parlez, je ne parle pas du français, de l'anglais ou une autre langue. Je parle des choses que vous exprimez et qu'on ne comprend pas. Des choses que vos proches expriment et que vous ne comprenez pas. Et le drame de ce monde, c'est que dans les couples, on ne parle pas le même langage. Parce qu'il y a trop de l'emprise de Babylone dans les couples. La femme exprime des choses que le mari ne comprend pas du tout et répond d'autres choses qu'elle ne comprend pas en retour. Les enfants ne comprennent pas les parents. Les parents croient comprendre les enfants. Les enfants croient comprendre les parents, croient savoir tout sur les parents. Mais finalement, il y a des problèmes là aussi, de langage. Et c'est la même chose autour de nous. Et combien de gens mettent fin à leur jour en disant « on n'a jamais entendu ce que j'ai voulu dire ». Il y a l'entente qui n'est plus là. Et ça, c'est Babel, où les hommes parlaient et ne s'entendaient plus, ne se comprenaient plus, ne pouvaient plus communiquer. Et ça crée la dispersion. C'est ce qui se passe dans les couples, ce qui se passe dans les familles. Parce que l'esprit de Babel, l'esprit de Babylone est là. Et combien de gens disent « je suis détruit, je suis ravagé, je suis englouti ». Et c'est important de reconnaître cela. Mais il va falloir que cette reconnaissance, que cette prise de conscience puisse générer chez nous ce cri vers Dieu. Seigneur, fais-moi sortir. Dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu a dit à son peuple, sortez du milieu d'elle. Et il s'agit de Babylone. Sortez, sortez de ce système. Il y a cette part que nous devons faire, mais ce n'est pas parce qu'on peut le faire de nous-mêmes. C'est que quand Dieu dit « sortez », quand il a dit à Lazare « sors », il lui a pas juste dit « sors », vous pouvez aller dans le cimetière et dire « sors », il n'y a personne qui va sortir. Mais quand Jésus dit « sors », il donne la puissance, il donne la résurrection, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et quand il dit « sortez de Babylone », eh bien il donne la puissance de se lever, de sortir. Mais il faut le faire. Tant que vous restez là-bas, vous serez dévorés. Vous serez engloutis, vous serez détruits, vous serez déchirés. Parce que c'est ça, et seulement ça, que peut faire la puissance de Babylone dans votre vie. On ne peut rien faire d'autre que cela. Dans Apocalypse, chapitre 12, un court passage, il est question d'une femme qui allait mettre au monde celui qui allait faire paître le peuple de Dieu avec une verge de fer, c'est Jésus-Christ. Et il est dit que le dragon était là pour attendre la venue de cet enfant pour pouvoir le dévorer. Vous voyez qu'ici, au verset 34, tel qu'un dragon, il m'a englouti. Voilà le but du monde. Voici le but de l'Occident actuellement, c'est d'engloutir Jésus-Christ. C'est de pouvoir attendre qu'il se manifeste pour pouvoir l'engloutir. Et le système qui a été compris, le système de Babylone, c'est de prendre les enfants. Ça a toujours été comme ça. Dans les systèmes, les dictatures, on a travaillé sur les enfants. Parce qu'on sait que les enfants vont grandir, il suffit d'attendre, n'est-ce pas? Il faut être patient pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce qu'on aura fait chez les enfants va porter son fruit. Et ces systèmes sont là pour attendre la naissance des enfants, pour pouvoir les prendre en charge le plus tôt possible et engloutir Jésus-Christ, la semence de Jésus-Christ dans leur vie. C'est ça le système dans lequel on vit. Et quand il est dit de sortir de ce système, c'est pas de prendre ses bagages et d'aller l'autre bout du monde en disant « là au moins je suis sorti », c'est de sortir spirituellement. C'est de vivre cet esprit de la nouvelle Jérusalem où il n'y a pas de temple parce que c'est Dieu qui est son temple. Vous lisez ça dans Apocalypse 21. Que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. « Je ne vis point, dit Jean, de temple. » Car Dieu est son temple, et l'agneau, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est son temple, qui ne sera pas détruit. Et donc le dragon dans Apocalypse 12 voulait dévorer l'enfant, mais l'enfant fut enlevé et amené auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors après, il s'en est pris à la femme, et vous lirez ça parce que ça prendrait trop de temps. Mais il est dit que la femme a reçu des ailes qui lui ont permis, bien sûr c'est une vision, tout est imagé, n'est-ce pas, qui lui ont permis d'aller dans le désert. Et dans le désert, elle fut nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Elle fut nourrie par Dieu. Et celle qui a enfanté dans Apocalypse 12, celle qui est décrite comme ayant enfanté, Jésus, ce n'est pas la Vierge Marie. C'est physiquement la Vierge Marie qui a donné naissance sur la terre à Jésus-Christ. Mais celle qui est mentionnée là, ce n'est pas la Vierge Marie, puisqu'il est question à la fin du chapitre, vous le lirez, du fait que le dragon est parti en guerre contre la postérité de cette femme. Et la postérité, ce n'est pas les descendants de Marie, c'est l'Église, cette femme. Parce que Jésus lui-même a dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Écoutez juste les paroles de Jésus. Il a dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et se tournant vers ceux qui étaient autour de lui, il a dit, « Voici ma mère, voici mes frères, sont ceux qui font la volonté de mon Père. Si vous faites la volonté du Père, vous êtes la mère de Jésus-Christ. C'est vous qui allez donner naissance à Jésus-Christ dans ce monde. C'est vous qui allez apporter Jésus-Christ dans ce monde. » Mais le dragon va vouloir vous engloutir, mais vous avez un sauveur qui vous amènera au désert. Et là, il va vous nourrir. Il va vous donner la nourriture dont vous avez besoin. Et c'est seulement ça qu'on a besoin, n'est-ce pas? On ne doit pas dire, voilà, je suis dans le monde, je vais essayer de profiter de Babylone au maximum, il y a des bons aspects à Babylone, il y a des bonnes choses. C'est un esprit qui est mauvais. Il est dit dans Apocalypse 18 que Babylone était devenue un repaire de démons. Et il y a des démons, on n'en parle plus beaucoup dans les églises maintenant parce que ça fait peur. Mais il y a des démons dans ce monde. Ce sont les puissances du mal qui agissent, n'est-ce pas, pour détruire, pour ravager, pour dévorer, pour engloutir. Mais vous avez un sauveur, vous avez Dieu qui vous protège. Si vous criez à lui, comme ici les captifs Les anciens habitants de Jérusalem criaient vers Dieu et Dieu les a écoutés. Dieu a écouté le cri des Noirs en Amérique quand ils ont pendant des décennies crié à Dieu pour la délivrance de l'esclavage. Et maintenant nous avons un président américain qui est noir. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu répond à ceux qui crient dans l'esclavage. Mais pourquoi ne crie-t-on pas quand on est dans l'esclavage du péché? Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui s'élève, n'est-ce pas, et qui crie vers Dieu quand il y a l'esclavage du péché? Parce que si vous le faites, Dieu répond. Il vous emmènera au désert. Retenez ça. Et il vous nourrira. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Ça, c'est le premier aspect, n'est-ce pas? Nébuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Tel qu'un dragon, il m'a englouti. Le deuxième aspect, c'est qu'il a fait de moi un vase vide. Et je voudrais parler là-dessus. Il a fait de moi un vase vide. Parce que le système du monde, la puissance du monde, c'est de prendre et de rien donner. Le système de Dieu, c'est de donner et de rien prendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux qu'il pouvait donner, c'était lui-même, son Fils, Jésus-Christ. Et quand les chrétiens commencent à voir, quand les dix chrétiens commencent à voir ce qu'ils peuvent récolter, ce qu'ils peuvent amasser, plutôt que de voir ce qu'ils peuvent donner, eh bien on arrive dans un système babylonien. Et malheureusement, c'est souvent le système qui nous gère en ce qui concerne nos biens. Le système babylonien plutôt que le système de Dieu. Mais ici, en tout cas, Babylone avait fait de l'habitante, de l'ancienne habitante de Jérusalem, elle avait fait un vase vide. Et vous lirez chez vous, j'aurais voulu le lire ensemble, mais je vais le lire, ne tournez pas forcément, mais connaissez ce psaume 137 que le groupe Bonnie M, il y a longtemps, je sais, vous allez dire, c'est un vieux qui parle, a rendu célèbre. « By the rivers of Babylon, there we sat down and yea we wept. » Et c'est exactement le passage du psaume 137 sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Voilà encore, ils sont gentils hein, à Babylone. Allez chanter, pourquoi ils disent ça? C'est pas pour se moquer. C'est parce que vous avez entendu peut-être les chants hébreux jouer à la harpe. C'est beau, c'est plaintif et c'est très beau. Et la harpe, c'est magnifique. Donc ils avaient entendu parfois les chants des Hébreux et ils ont dit « Allez, allez, chantez-nous, ça nous fait du bien, allez-y. » Mais il y avait un problème de langage, mais c'est normal en Babylone. Problème de communication. Comment voulez-vous qu'on chante quand on est vide? Comment voulez-vous qu'on chante quand dans le cœur on a une tristesse profonde? Et ici, exprimé de la sorte, il a fait de moi un vase vide. Nébuchadnezzar, Babylone, a fait de moi un vase vide. C'est tout ce qu'on peut avoir dans le monde. C'est tout ce que vous pouvez espérer du monde, c'est de devenir vide. Mais ce matin, est-ce que nous sommes un vase vide? Ou est-ce que nous sommes un vase rempli? Et cette question est tellement essentielle. Bien sûr, de quoi sommes-nous remplis? Parce que vous savez que dans Apocalypse 17, il est dit que Babylone, cette femme, elle est incarnée sous forme d'une femme, comme Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, est incarné sous la forme d'une femme, eh bien, elle a une coupe dans la main qui est remplie. Bien sûr, elle est remplie parce qu'elle a vidé les coupes de ceux qu'elle a fait captifs. Mais elle a une coupe qui est remplie. Et vous lirez dans Apocalypse 17 chez vous que c'est rempli de l'impudicité et des abominations. Et le monde a des vases et des coupes qui sont remplies des abominations. Il est dit que c'était une coupe d'or qu'elle avait. Et cette coupe d'or était remplie des abominations. Vous savez que Nebuchadnezzar a volé les coupes d'or du temple de Dieu à Jérusalem. Et il a pris ces coupes et les a amenées dans ce territoire de Babylone. Et il y a eu des abominations, pour lesquelles d'ailleurs Dieu a prononcé un jugement très clair, qui ont été faites. Mais c'est aussi symbolique, ces coupes. Et de quoi êtes-vous remplis ? De quoi votre vie est-elle remplie ce matin ? Est-ce qu'elle est remplie des abominations ? Ou est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit ? Est-ce que votre coupe est remplie ou est-ce qu'elle est vide ? Si vous êtes vide, si comme ici dans ce passage d'Ésaïe 51, vous dites « Le monde a fait de moi un vase vide » ou « Mon passé a fait de moi un vase vide », je n'ai plus rien que je puisse apporter. Je ne peux plus chanter. Oh, je peux chanter le matin quand on me dit de chanter. Je peux le faire parce que ça, c'est un comportement social qu'on peut apprendre même à des animaux, n'est-ce pas ? Vous savez que quand j'étais enfant, mon père faisait des réunions dans une maison, il y avait le monsieur et la dame, et ils avaient le chien. Et le chien assistait à toutes les réunions. Je ne sais pas s'il a compris grand-chose, mais il a compris une chose. C'est que quand c'était le moment de chanter, il fallait chanter. Donc, il commençait à crier. Alors, je ne sais pas si c'était pour chanter ou si c'était pour demander que les gens arrêtent de chanter parce que ça l'effrayait. Mais en tout cas, on peut chanter et on peut apprendre un animal à produire des comportements de ce genre. Mais est-ce qu'il y a un chant nouveau qui est dans votre cœur ? Est-ce qu'il y a quelque chose de la présence de Dieu qui est dans votre vie, qui génère un chant? Ça ne veut pas dire que est-ce que vous chantez quand vous conduisez la voiture ou quand vous faites le ménage. C'est important. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui monte vers Dieu et qui loue l'Éternel quand vous êtes dans la vie de tous les jours? Parce que ça témoigne d'un vase qui est rempli du Saint-Esprit. Ça témoigne qu'il y a quelque chose que vous pouvez commencer à exprimer. Mais là, les captifs, ils avaient le vase vide. Ils avaient accroché leur harpe sur les sols de la contrée. Et ils ont dit, mais comment pouvez-vous nous demander de chanter? On ne peut pas chanter, on est vide. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Apocalypse chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 5, il est question là de coupes qui sont pleines d'autres choses. Sont pleines, mais pas comme la coupe de Babylone. Apocalypse chapitre 5, au verset 8. Quand il eut pris le livre, parce que dans la vision, dans le contexte, dans la vision de Jean, eh bien, il voit le livre qui est scellé, et il n'y a personne dans le ciel qui peut ouvrir ce livre. Et on lui dit, si, il y a l'agneau qui peut l'ouvrir. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Retenez ça. Et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Voilà les coupes dans le ciel qui sont remplies de parfums. Est-ce que vous êtes un vase vide ? Ou est-ce que vous êtes un vase rempli des abominations que vous avez accumulées peut-être à la télévision, en regardant la télévision, en regardant des choses, des magazines, des choses vaines, en faisant des choses qui sont de Babylone, qui ne sont pas de Dieu. Et vous avez un vase qui est rempli de ces choses-là. Ou est-ce que vous êtes un vase vide ce matin en disant « Seigneur, je me sens complètement vide. » Ou est-ce que vous êtes un vase rempli de parfum? Et ce parfum, c'est la prière des saints. Il y a quelque chose qui prie Dieu, qui monte vers Dieu. Ce parfum, ça monte, n'est-ce pas? On serait très gêné, n'est-ce pas? Très gêné. Si on pouvait sentir l'odeur de votre vie spirituelle. Les gens chercheraient à cacher, n'est-ce pas? On peut le sentir dans des états très avancés de détérioration spirituelle, parce que ça se voit sous le visage, ça se voit sous le corps. Mais si on pouvait sentir l'odeur de ce que contient le vase de votre vie ou la coupe de votre vie, eh bien probablement on serait très gêné le dimanche matin de se rassembler. Mais là, c'est très clair qu'il y a dans ces coupes un parfum, et ce parfum, c'est la prière des saints qui monte vers Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 9, « Et ils chantaient un cantique nouveau. » Un cantique nouveau. Ce n'est pas les chants nouveaux, nouvellement édités, nouvellement publiés, n'est-ce pas, et qu'il faut sortir dans l'église, et puis une église qui est branchée, c'est celle qui chante les derniers chants qui viennent de sortir. Et nous, alors je vous dis tout de suite, on est ringards. Hein? On est ringards. Ce matin, elle a chanté « Nul n'est comparable ». Ça date de je ne sais pas quand. Et on a chanté l'autre, je ne sais plus, un autre chant des ailes de la foi. Oui, quand le vol de la tempête. Alors là, voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Le chant nouveau, ce n'est pas un chant qui vient de sortir. C'est un chant qui est spontanément monté vers Dieu. Est-ce que vous connaissez ces moments de la présence de Dieu? Est-ce que vous les saisissez, ces moments-là? Et vous dites, Seigneur, donne-moi ta parole. Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Mais je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux garder ces moments-là. Je veux les vivre constamment. Il y a quelque chose de nouveau qui monte. Ils avaient des harpes et ils pouvaient chanter un cantique nouveau, parce que leur coupe était pleine, pleine de la présence de Dieu, pleine de du parfum, des prières qui montent vers Dieu, de la louange. Les prières, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi une bonne journée aujourd'hui, parce qu'hier, ce n'était pas terrible. » Les prières, c'est probablement, c'est pas de paroles. Des soupirs inexprimables, mais quelque chose qui monte vers Dieu, qui attire et qui en communion avec Dieu. Mais ici, pour les captifs, ils étaient comme un vase vide. Il a fait de moi un vase vide. Il a rempli son ventre, au verset 34 de Jérémie 51, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. C'est toujours le même principe, la même idée de vider le vase, de prendre pour soi ce qui est précieux. C'est ce qu'il a fait à Jérusalem, c'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Il a enlevé du temple les richesses et ensuite il a détruit. Le monde va faire ça, le monde va faire ça. Combien de gens, n'est-ce pas, ont grandi dans les églises et parce que leurs parents étaient au Seigneur. Parce que dans les églises, on a commencé à chanter quand ils étaient bébés, devant eux. Ils ont appris à chanter facilement. Et puis, quand ils étaient enfants, parce qu'ils chantaient bien, on leur a dit, allez, à la fête de l'église, allez, tu vas chanter maintenant. Parce que tu as bien travaillé les chants. Et puis, ça va faire du bien à l'église. Ils deviennent des bons chanteurs, ils deviennent des bons musiciens. Voilà ce qu'ils ont de précieux que Dieu leur a donné. Et ensuite, à l'âge adulte, ils trouvent qu'ils peuvent utiliser ça pour gagner de l'argent, pour utiliser pour le monde. Parce que le monde va vouloir réclamer cela, n'est-ce pas? va vouloir utiliser ça pour lui, va le voir prendre ça pour lui. Il paraît que Elvis Presley, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai tout ce qui est dit sur lui, mais Elvis Presley était tourmenté par ça. Parce qu'il avait fils de pasteur, il avait appris à chanter très tôt dans les églises, il était bon musicien. Et toute sa vie, attiré par le monde, mais avec le souvenir de Sion, le souvenir de Jérusalem qui avait été détruit dans sa vie. Quel dilemme, quelle tragédie. Mais il est possible aujourd'hui que ce dilemme se termine. Si on écoute cette parole du Seigneur, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. Et le Seigneur nous donne la force de sortir. Il nous donne la force de consacrer ce qu'il y a de précieux pour lui. Votre temps. Votre temps est ce qu'il y a parmi les choses les plus précieuses que vous avez à votre disposition. Et le monde veut s'emparer de votre temps. Mais ce matin, est-ce que vous êtes prêt à donner votre temps pour le Seigneur? Et j'aimerais, en considérant ce verset, qu'il a pris tout ce qui était précieux. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. J'aimerais vous faire retourner dans Osée, mais vous ferez chez vous cela. Le début de Osée, comme j'ai dit, c'était bien avant la déportation. Mais ici, il est question d'une prostituée, n'est-ce pas, qui a... Judas et Israël sont comparés à une prostituée qui a pris les choses que Dieu lui avait données. Vous lirez ça, je pensais dans le chapitre 2. Dieu lui a donné le blé, le miel, les richesses en abondance. Et elle l'a donné à ses amants. Et elle a dit, c'est eux qui me pourvoient en huile, en blé, en lin, etc. Et Dieu a averti que c'était grave. Que c'était grave de prendre les choses que Dieu nous a données, et de dire voilà, ça vient du monde, c'est là où j'ai reçu tout cela. Et c'est là dans le chapitre 2 qui dit je l'amènerai au désert, encore une fois. Mais là, c'est pas pour la nourrir, c'est pour parler à son cœur. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Et ce matin, il est nécessaire peut-être pour certains d'entre nous d'être amenés au désert, soit pour être nourris, parce que le dragon veut nous engloutir, ou pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts d'aller avec lui au désert où il va vous parler? Et il est dit, je l'amènerai au désert et là je parlerai à son cœur. Et je lui donnerai la vallée d'Achor comme porte d'espérance. La vallée d'Achor, ça veut dire la vallée du trouble. C'est là où il y a le trouble, n'est-ce pas? Je donnerai cette vallée du trouble comme une porte d'espérance. C'est-à-dire qu'il veut changer le trouble dans vos vies. Il veut changer le trouble dans ma vie. Tout ce qui est troublé, il veut le changer, donner, transformer en une porte d'espérance pour qu'on puisse avancer ce matin avec lui. C'est là où Dieu veut nous amener. Mais ne laissez pas ce qui est précieux être dévoré par le monde, par le péché. Je terminerai par le dernier aspect ici, le dernier morceau du verset 34. Il m'a chassé. Voilà, c'est pas qu'il a chassé de Babylone, parce que Nebuchadnezzar, la terre où on ne comprend pas, parce que c'est la terre où le langage est incompréhensible, n'est-ce pas, où les hommes ne se comprennent pas. Mais il a pris avec, il a compris le peuple, il a pris avec lui, étymologiquement comprendre, veut dire prendre avec. Il a pris le peuple de Juda avec lui, mais il n'a pas compris. C'est très frappant, cette confusion de langage, là aussi. Et il l'a chassé, mais il ne l'a pas chassé en disant « sortez ». Il l'a chassé tout en gardant, comme le chat fait avec la souris, n'est-ce pas? Il la laisse s'échapper, il la chasse même pour qu'elle s'échappe, et il saute dessus. Voilà le monde, il m'a chassé. Combien de gens autour de nous sont chassés, sont pourchassés. Et Jésus a dit, venez à moi. Il a dit répétitivement, venez à moi, venez, venez à moi. Jésus est celui qui nous accueille. Et je voudrais vraiment terminer avec cette conclusion pleine d'espoir. C'est que ce matin, la voix de Jésus-Christ est clairement dite, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui avez un vase vide ou un vase qui est rempli d'autres choses, venez à Jésus ce matin. Parce que lui ne vous chassera pas. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le monde va vous mettre dehors si vous n'avez rien à apporter. Regardez le fils prodigue. Tant qu'il avait des choses à donner, il était accueilli. Mais quand il n'avait plus rien, on lui dit dégage. Le monde est comme ça. Quand vous avez des compétences, vous êtes très intéressant. Et quand vous perdez ces compétences suite à une maladie ou un accident, on vous dit dégage, on n'a plus besoin de toi. Les beaux athlètes qui sont à Zurich en ce moment, ils sont très performants, mais il suffit d'un petit quelque chose qui leur arrive. Et toute leur carrière, tout leur avenir, toutes les promesses, toute l'admiration dont ils bénéficient, c'est terminé. Il leur reste, et beaucoup de sportifs de haut niveau connaissent Jésus-Christ. Parce qu'ils savent, ils ont entendu la parole de Dieu, et ils savent que Jésus les aime. Et ce matin, la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est « Venez à moi ». Il ne nous chasse pas. Beaucoup de gens disent « Voilà, j'ai peur de m'approcher, parce que Jésus va me reprocher ce que j'ai fait. » Il va venir et il va me dire « Va d'abord te laver un peu et on va voir. Est-ce que le père du fils prodigue a dit à son fils « Passe d'abord par la salle de bain et ensuite je verrai ce que je fais. » Il l'a pris dans ses bras. Son fils sentait le cochon et plus parce qu'il avait dû marcher pendant des jours. Il avait soigné des porcs, mais il l'a pris dans ses bras. Ce matin, c'est ça. La parole de Dieu, la parole de Jésus. Venez à moi si vous avez soif et buvez. Venez à moi si vous êtes fatigué et chargé. Et Jésus vous accueillera. Et il fera de vos vies des vases qui sont remplis de sa présence. Ne tournez pas, mais je vais donner ce verset pour terminer dans Éphésiens 3. Éphésiens 3. Au verset, ouais, c'est difficile parce que la phrase est très longue. On va dire au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça veut dire que vos vies sont remplies de Christ, sont remplies de la présence de Christ. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Est-ce qu'on a conscience que Christ nous aime ? Et que ce matin, il veut qu'on vienne à lui. Cet amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà l'objectif, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et quand vous êtes remplis de Christ, ce qui sort de vous, c'est Christ. Les paroles qui sortent sont des paroles qui viennent de Christ. Ce que vous communiquez au niveau des expressions, c'est Jésus-Christ. Et c'est l'amour qui se manifeste. Voilà le but, voilà l'objectif de l'Évangile, voilà le message de l'Évangile. Et vous avez le choix entre Babylone, décrite dans Apocalypse 17 et 18, ou la Nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21. Mais choisissez Jésus-Christ, choisissez l'Église universelle qui est la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là où la bénédiction de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit peut se révéler, devenir une réalité. Amen.